应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission de cinéma sur Transistor. Alors cette semaine, notre toile est imprégnée de la chaleur un peu étouffante de « À mon âge, je me cache encore pour fumer » de Rayana. Quant aux yeux, ce sont ceux de Sarah et de Marie qui se posent sur elle, emmenés aujourd'hui par Alice. Bonjour à toi Alice.
Bonjour Rémi. « À mon âge, je me cache encore pour fumer », c'est l'histoire d'abord de l'Algérie des années 80 en proie à la montée du FIS, le Front Islamique du Salut, et à ses attentats. Et des femmes de toutes classes et de tous bords politiques se retrouvent au hammam, un des rares lieux de la société algérienne où la femme peut aller sans réprimande. Et là, loin du regard accusateur des hommes, elles se dévoilent, elles font la fête, elles s'épilent, elles parlent mariage et politique. Alors qu'un drame se tisse autour d'une jeune fille enceinte et célibataire venue trouver refuge dans le hammam pour échapper à la colère de son frère, le hammam devient le lieu d'un huis clos à la fois cathartique et émancipateur, où les fractures et les tabous d'une société violente sont mises à nu, comme les femmes qui s'y retrouvent. Bonjour Sarah, bonjour Marie. Tout d'abord...
Bonjour Alice.
Qu'avez-vous pensé de ce film?
Pour ma part, c'est un film que j'ai absolument adoré.
Moi aussi, je trouve que c'est un film dans lequel on entre très facilement. Tout de suite, on a envie de voir la suite.
Oui, tout à fait. Et je pense... Donc le film a d'abord été une pièce de théâtre, écrite en français d'ailleurs.
Ah, je savais pas ça. Mais enfin... Ça se voit un peu dans le côté huis clos, la forme qu'a le film lui-même. Quoi. On est, à part la scène de début et la scène de fin, on est en permanence dans le huis clos pendant 1h20, du coup, à peu près. D'accord, c'était une pièce de théâtre.
Oui, bah, je pense que ça permet d'entrer assez facilement dans le vif du sujet. Il y a une efficacité dramaturgique du huis clos et puis des liens qui se tissent d'une situation à une autre, les échos qui se font.
Oui, je trouve que ça... En fait, le fait que ce soit une pièce de théâtre, peut-être que ça explique aussi l'importance du lieu, de l'espace, qui donc c'est un huis clos. Et du coup, ça rend le hammam, ça lui donne beaucoup plus de force, beaucoup plus de signification, parce qu'il est vraiment le lieu unique du film. Et en même temps, c'est un lieu fermé au monde extérieur, qui en même temps est lié à lui, parce qu'il se définit par rapport à lui. Les femmes sont libres dans le hammam, de s'habiller, de se comporter comme elles le veulent, alors qu'à l'extérieur, elles sont cloisonnées dans les voiles ou les règles sociales, tout simplement.
Elles ne sont pas totalement libres, d'ailleurs, dans le hammam. Il y a quand même le regard accusateur des femmes elles-mêmes, même si elles sont à l'abri de celui des hommes.
Oui, il y a une reproduction des fractures de la société. Oui. Il y a le personnage de Zaya, notamment, qui est une veuve d'émir extrémiste, qui a reproduit un regard très dur sur... certaines de ses comparses, et notamment qui reproduit des jugements moraux, en fait.
Oui, je pense qu'il y avait véritablement... Enfin, il y a une reproduction des règles sociales dans la parole. En revanche, je pense qu'il y a une véritable liberté physique, enfin corporelle, dans le comportement de ces femmes par rapport à leur corps et par rapport au corps des autres. Il y a une liberté qui est impossible ailleurs. Alors, par contre, oui, c'est vrai, dans la parole, je suis d'accord, ça reste, il y a des tensions qui subsistent en tout cas, mais il y a quand même une liberté. Enfin, elles parlent pas de la même façon non plus quand elles sont dans le hammam. Mm-hmm.
Et puis cette nudité, enfin vraiment, elle est super intéressante, quoi. Genre, on est au milieu de femmes nues pendant 1h30 et ça n'est pas sexualisé, c'est génial.
C'est ça,
j'adore.
C'est pas du tout choquant. Enfin, on se retrouve un peu face à soi-même aussi, face à son propre corps. Enfin, c'est assez intéressant ce traitement et c'est très pudique, je trouve. C'est ça qui est.
Oui, et puis il y a tout type de corps, donc il y a vraiment juste une un regard complètement désexualisé, mais aussi désubjectivé, presque, sur le corps.
Oui, c'est ça. C'est un film avec énormément de corps, énormément de femmes. Déjà, rien que ça, ça ne pouvait que me plaire.
Et fait par une femme. Et moi, je trouve aussi que le corps est non seulement permet des images magnifiques. Il n'est pas sexualisé du tout, mais les couleurs de ce hammam, déjà, de la lumière et des corps qui font toutes les nuances de rose et de beige, notamment une scène où, En plus, qu'il y a un peu une dimension cathartique où une des femmes raconte son mariage forcé et sa nuit de noces, où tous les corps se
convergent. Ouais, non, franchement, le décor était magnifique. Si j'ai bien compris, c'est un hammam situé en Grèce du 15e siècle. Et ça donnait vraiment une très, très belle lumière à tout ce film. Rien que déjà, les scènes d'ouverture qui filment la ville avec le port sont très, très belles en soi. Donc je me suis dit, ah, un film avec une belle photographie. Et après, on a ce huis clos. Mais même s'il y a le côté oppressant du huis clos, esthétiquement, ça reste quelque chose de très, très beau au niveau de la lumière et du décor, les nuances de pierre grise, de chair rose, etc. Pendant tout le film.
Oui, c'est intéressant parce que du coup, ces couleurs, cette lumière et tout qui règne dans un espace pourtant clos, enfin fermé, et donc fermé à la lumière en théorie, ça montre bien en fait que cet espace reste l'espace de liberté, tandis que l'extérieur, paradoxalement, est l'espace régulé, normalisé, législatif, ouais. Je sais pas trop comment dire.
Oui, c'est ça. Alors, de ce point de vue-là, il y a peut-être une opposition un peu binaire, notamment sur la fin du film, qu'on va pas révéler, mais c'est vrai que les femmes, les gentilles, sont en blanc, et les hommes, les méchants, sont en noir, avec les yeux cerclés noirs, etc. C'est vrai que ça donnait peut-être un côté un peu binaire par certains aspects, mais esthétiquement, ça fonctionnait, donc pour moi, ça rattrape ce côté-là, peut-être un peu opposition bien-mal, un peu simpliste qu'on peut trouver dans certaines images du film. Je sais pas ce que vous en pensez.
Si, tout à fait, mais il subsiste quand même toujours déjà ce personnage de Zaya, donc, qui est l'islamiste qui porte à la fois le hijab et le deuil de son mari, qui était un des grands chefs des islamistes, et qui tend toujours à nuancer ce côté binaire femme-homme, bien-mal, moderne, pas moderne. Et puis on a aussi tous les personnages de femmes un peu... peu éduquées et qui ont tendance à reproduire des formules toutes faites et à reprendre les idées de leur mari. Et moi, j'ai trouvé que le côté binaire était quand même assez déjoué, sans cesse. Et pour revenir au corps encore, l'autre fonction des corps qui m'a beaucoup touchée, c'est que le corps de toutes ces femmes révèle des cicatrices, des blessures, mais aussi des luttes.
Il y a la scène avec la jeune femme qui a ses règles et la petite fille qui la voit, c'est quand même assez, assez traumatisant. Alors même que c'est vu par les femmes adultes comme un phénomène totalement normal, et ça ne choque personne à part la fillette, et ça montre bien qu'il y a une forme de tabou quand même autour du corps qui reste parce qu'on ne lui explique pas non plus ce que c'est, on la mène à l'écart, et c'est vrai qu'il y a une forme de... peut-être des cicatrices qui semblent normales pour les femmes, enfin, ça en est une naturelle bien sûr, mais... ça reste, le corps reste un corps blessé, en tout cas tabou, et ça montre peut-être aussi une face, enfin, même si c'est un espace de liberté, et si elles arrivent à s'ouvrir et à se laisser aller avec leur propre corps, il y a des choses qui restent tabou.
Ouais, mais après j'avais l'impression dans le film que la fillette, on lui expliquait pas ce qu'étaient les règles. Surtout parce que pourquoi est-ce qu'elle a eu peur du sang ? Parce que ça lui a rappelé les événements traumatiques, à savoir l'assassinat de ses parents devant ses yeux et le viol de ses sœurs. Et le truc dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, c'est le contexte politique dans lequel prend place ce film. Enfin, bien sûr, tu en as parlé en introduction, Alice. Mais il est quand même là de manière sourde, ce contexte. Et c'est quand même un film sacrément à charge, quoi. Rien que pour ça, c'est très très intéressant d'aller le voir.
D'autant que donc la réalisatrice et auteure du scénario, Rayana, a écrit « À mon âge, je me cache encore pour fumer » 2 ans après son exil. Exil qui est justement lié à sa condition de femme, c'est-à-dire qu'elle était actrice et n'a rien pu faire à partir du moment où les islamistes sont arrivés au pouvoir. Et le film est un peu... un procès à charge aussi sur regardez, on a laissé faire ça et c'était le moment charnière où on aurait pu changer et non.
C'est ça. Je savais pas que c'était le cas, qu'elle avait été exilée, mais c'est intéressant parce que j'avais vu une interview de l'actrice principale qui disait qu'en fait les scènes du hammam donc avaient été filmées en Grèce justement parce que les scènes de nudité en fait avaient été interdites par l'Algérie, je crois. Donc du coup ils avaient refusé de filmer. Donc c'est un peu comme si le film lui-même était exilé comme elle, quoi.
Ouais. Et ce qui était très intéressant dans la manière de représenter ce contexte politique, c'était que On est en contexte d'attentat. Il y a deux explosions au début du film et une un moment pendant qu'elles sont dans le hammam. Mais c'est pas le bruit d'explosion qui est la manière d'exprimer le fait qu'on est en conflit et que les islamistes sont au pouvoir. Au contraire, c'est marqué dans le corps des femmes et dans leur discours. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus subtil que de faire un film où il y aurait en permanence des bombes qu'on entend tomber derrière. Enfin, c'était intéressant, j'ai trouvé.
D'autant plus que les femmes vivent ça. Les explosions ne sont pas vécues comme un phénomène particulièrement exceptionnel et du coup pas spécialement effrayant.
D'autant qu'on a l'impression que les cibles de ces attentats sont les femmes libres qui se dévoilent, et notamment une d'entre elles qu'on voit dans le hammam qui a été agressée à l'acide et qui justement ne se dévoile qu'à un moment pour finalement montrer toute cette violence dont elle a été victime à d'autres femmes qui se cachent la réalité des choses.
Oui, peut-être qu'on peut voir une opposition très nette entre Zaya, c'est ça ?
Ouais.
Entre Zaya, qui se cache entièrement avec le voile intégral, et cette jeune femme dont j'ai oublié le nom, qui, pour le coup, se dévoile complètement et avec une forme d'exubérance, puisqu'elle elle révèle sa cicatrice avec colère envers la jeune femme, envers Zaya. Et donc là vraiment, il y a une opposition entre celle qui accepte sa cicatrice et celle qui cache son corps.
Ça reste un film très dur. Bon, de toute façon, ça commence, ça a commencé depuis 5 minutes, on a déjà un viol conjugal, donc voilà, et tout le reste du film est à l'avenant. Malgré tout, c'est un film qui reste drôle aussi par beaucoup d'aspects, qui se veut drôle, qui m'a... Enfin, on a besoin du comic relief, quoi, comme on dit en bon anglais. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bienvenu aussi, d'apporter ces petites touches. Alors, quitte à avoir des personnages complètement caricaturaux, comme Madame Mouni, par exemple, qui est immigrée française, qui revient chercher une épouse pour son fils en Algérie. Et c'est hilarant, parce que pendant tout le film, on entend de l'arabe, c'est très joli à entendre, et très régulièrement, il y a du français qui arrive comme ça au milieu des phrases. Et elle, quand elle arrive... les femmes du hammam se moquent d'elle et parlent en arabe de manière à ce qu'elles ne comprennent pas, et disent « Ah ouais, c'est une brunasse habillée en blondasse qu'elle arrive avec son haut léopard, ses talons, enfin elle est complètement incongrue dans le hammam. » Et bon, on pourrait dire que c'est un personnage très très caricatural, et là genre « Venez en France, je vous trouverai un HLM et des allocations et tout. » Mais en même temps, c'était bienvenu ce côté un peu caricatural de temps en temps pour respirer au milieu du film, quoi.
Ou même de la belle-mère...
Oui, complètement. Oh, elle, c'est trop une méchante de Disney, quoi. Et elle est géniale, elle est merveilleuse.
Et en même temps, cet aspect caricatural donne une petite touche de réalisme, parce que comme il y a une forme d'humour sur ces personnages qui ont quand même des centres d'intérêt parfois très, très simples. Quand la jeune femme qui veut se marier, le personnage principal qui veut se marier, elle veut essayer les chaussures rouges. Elle raconte tous ses rêves à sa patronne. Enfin, elle est vraiment, elle est assez naïve. C'est un peu ridicule, un peu caricatural. C'est la jeune fille, un peu vieille fille presque déjà, qui veut se marier. Et en même temps, ça reste attendrissant et ça ajoute un peu un côté humain à ces personnes. À ces femmes qui sont pas seulement qui ne sont pas seulement des corps, mais qui sont pas seulement non plus des femmes qui se battent pour leur liberté, pas du tout. Enfin.
Eh bien, si vous voulez aller voir un hammam pas orientalisant, pas avec que des femmes à Longuie, mais aussi très drôle, très dur et terrifiant, eh bien allez voir À mon âge, je me cache encore pour fumer, qui passe aux Lumières Bellecourt.
Qui passe encore, en effet, oui, chez nos partenaires du Lumières Bellecourt, ce film que vous m'avez donné particulièrement envie d'aller voir. Si j'ai encore un petit peu de temps avant de partir en stage.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What? Danger zone.
Say my name. You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Et nous retrouvons tout de suite notre sériphile fidèle au poste. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi.
Bonjour à vous tous, mes chers sériphiles. Et cette fois, je me tourne vers vous en vous posant cette question. Et si on parlait, enfin reparlait, de la guerre ? Mais cette fois, on va en parler sérieusement. Je vous l'avais promis depuis longtemps. On va donc se pencher sur un numéro triple et parler de Generation Kill, Band of Brothers et The Pacific. Commençons donc par Generation Kill. C'est une série qui date de 2008 et qui a été produite par HBO et créée par David Simon, dont on a déjà parlé, par exemple, pour la série Show Me a Hero. David Simon est connu pour sa série, par exemple, The Wire aussi, qui ont tous cette teinte de réalisme, de sociologie, tout au long de leurs épisodes. Alors, Generation Kill est adapté d'un bouquin d'Evan Wright qui a été publié en 2004, Evan Wright étant un journaliste qui a participé à la guerre en Irak de 2003 au sein d'une unité de reconnaissance de la marine américaine. Et donc son bouquin, Generation Kill, raconte sa vie justement pendant les quelques semaines qu'ont duré l'invasion américaine de l'Irak. Et Generation Kill, la série cette fois-ci de HBO, a été une adaptation particulièrement fidèle et très réussie de 7 épisodes d'une heure. Alors dans cette série, on a plusieurs acteurs plus ou moins célèbres. Dans les rôles principaux, on a des acteurs qu'on n'a pas eu l'habitude de les voir dans d'autres séries, etc. À l'image par exemple de Lee Tergesen, qui joue justement Evan Wright, parce que c'est une autobiographie, donc le livre comme on avait dit. Alexander Skarsgård, James Ransom, John Huertas et Stark Sands, pour les 4 personnages plus le journaliste, qui sont dans la Jeep d'Evan Wright, dans laquelle il va donc parcourir l'Irak du Sud, du Koweït jusqu'à Bagdad. Il y a bien sûr plein d'autres acteurs, parce qu'on pourrait dire presque que c'est un film choral, on va dire. C'est un film qui se concentre sur une Jeep, qui fait partie d'une unité, qui fait partie d'une armée, etc. Donc vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de rivalités entre plein de niveaux différents à l'armée, avec des personnages qui se connaissent plus ou moins à différentes échelles. On s'y perd un peu, mais ce qui compte, c'est de se concentrer sur les personnages dans cette Jeep. Alors, dans les autres acteurs, on peut s'amuser à en reconnaître certains. Par exemple, on trouve Doug, de House of Cards, mais aussi Wayne Rigsby, du Mentaliste, etc. En ce qui concerne Band of Brothers, c'est aussi une production HBO, datée cette fois-ci de 2001, donc particulièrement vieille, on pourrait dire, par rapport aux autres séries dont je vais vous parler là maintenant. Donc voilà, encore une fois HBO, encore une fois adapté d'un bouquin, mais cette fois-ci adapté de Stephen Ambrose. Pour la création de Band of Brothers, ça a demandé énormément d'auteurs, énormément de réalisateurs. C'est vraiment une série avec des épisodes qui vont tous leur propre histoire, leur propre patte, mais ce qui compte, c'est qu'elle a été coproduite dans son intégralité par Steven Spielberg et Tom Hanks, qu'on a retrouvé ensemble en 1998 dans Saving Private Ryan. Donc, Band of Brothers est constitué de 10 épisodes qui durent tous une heure et racontent l'histoire de la Easy Company, qui est une compagnie qui faisait partie de la 101e Airborne Division qui a participé à toutes les grandes batailles d'Europe, de la Normandie à la libération des camps et l'occupation de l'Allemagne, en passant bien sûr par l'opération Market Garden et les Ardennes. On trouve par exemple comme acteur célèbre Damien Lewis au casting dans le rôle de Winters, un soldat, un capitaine qui commence relativement bas dans les échelons militaires, mais qui monte dans la hiérarchie grâce justement à sa position et au fait qu'il participe à toutes les grandes batailles de la bataille d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. On trouve aussi David Schwimmer qui joue un rôle assez ridicule d'un capitaine borné qui lui ne va pas monter en grade mais qui va s'occuper de l'entraînement des parachutistes que tout le monde déteste et donc c'est très rigolo de le voir dans un rôle totalement ridicule et décalé. Il y a pas mal d'épisodes assez célèbres dans la série Band of Brothers, je pense que je vous apprends rien en vous parlant par exemple de Bastogne ou de 40 ans. Ces épisodes qui ont été repris par exemple dans des jeux vidéo comme Call of Duty 2, notamment l'épisode de 40 ans qui se fonde sur des véritables images d'archives pour recréer la ville de l'époque. On passe enfin à The Pacific, avant de vraiment parler de toutes ces différentes séries. The Pacific, elle, encore une fois, produite par HBO, cette fois-ci datée de 2010, avec, on pourrait remarquer aussi, la musique de Hans Zimmer qui l'accompagne. C'est une série qui continue Band of Brothers dans son ambition, dans sa réalisation, dans son idée de fond, mais cette fois, cette série est orientée vers la guerre du Pacifique. Alors je vous préviens tout de suite, je ne l'ai pas vue en entier, juste quand elle passait à la télé il y a quelques années de cela, mais le peu que j'ai vu a suffi à ce que je la trouve aussi juste, précise et bien foutue que Band of Brothers. Pourtant, il faut bien s'en méfier, elle est très différente, hein, il ne faut pas s'attendre exactement à la même chose. Ce ne sont pas, par exemple, les mêmes teintes au niveau de la couleur, donc on trouve ici une patte de la réalisation assez particulière, les teintes étant plus jaunes et non plus vertes, comme dans Band of Brothers. Donc The Pacific est beaucoup plus massive, subtilement centrée sur un personnage, donc on arrive mieux à s'y retrouver, et surtout, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas que du combat. Ce ne sont pas, justement, comme dans Band of Brothers, des militaires qui sont toujours en première ligne, voire derrière les lignes ennemis. Là, ce sont des soldats qui vont être trimballés d'île en île dans le Pacifique. Il peut par exemple se passer un épisode entier où les personnages sont en permission en Australie par exemple, sans grand combat, voire sans combat du tout. Il y a beaucoup de moments beaucoup plus simples que Band of Brothers, donc presque plus humains et quasiment pas guerriers. Donc maintenant, ce qu'on peut en penser justement de ces trois séries, que je place au même niveau, au niveau de la qualité, au niveau de la réalisation, du jeu d'acteur et de l'histoire, ce qu'on peut tirer de ces trois différentes séries, c'est que si on raconte leur histoire plus en détail, ça prendrait un temps fou, parce qu'elles développent plein de vie autour de celle du ou des personnages principaux, parce qu'elles ont pour but de ressembler à un documentaire. C'est par exemple le cas dans Band of Brothers, qui intègre des interviews des gens qui ont participé à ces batailles au début et en fin des épisodes. C'est presque, on pourrait dire, la même veine que le film Bridge Too Far, que je vous ai déjà recommandé, mais je ne pourrais jamais appuyer à quel point c'est un des meilleurs films de guerre qui existe, et aussi par exemple Le Jour le plus long. Tous deux sont des films adaptés de livres de Douglas Ryan, des livres qui ont été consacrés à récupérer les témoignages des différents personnages, des différents acteurs de ces grandes batailles. Et donc, ces différentes séries veulent faire la même chose en reprenant encore une fois des bouquins qui sont des témoignages. Elles veulent montrer la vraie réalité de la guerre. Donc bien sûr, ça demande de grands moyens pour reproduire l'ampleur de la Deuxième Guerre mondiale ou de la guerre d'Irak bien sûr, avec un réalisme très poussé, à la fois dans la violence, attention âme sensible parfois s'abstenir parce que ça peut tomber dans le gore parfois, mais aussi le réalisme est poussé dans l'historicité. On veut montrer comment c'était vraiment, et ça marche vraiment très bien. Dans The Pacific, c'est un peu plus facile parce qu'il y a beaucoup d'éléments naturels, beaucoup de combats dans la nature, etc. Alors que quand on se tourne vers Band of Brothers, ça demandait un véritable travail de recherche derrière pour recréer à la fois une ambiance de l'époque, mais aussi des villes de l'époque, pour donc recréer véritablement les paysages que ces soldats auraient vus à cette époque. Ce qui est bien avec ces séries, c'est qu'on s'attache toujours aux personnages. Il y a plusieurs raisons à cela. Je ne dis pas forcément qu'on a tous cette envie de partir au combat et de tuer des gens. Mais d'abord, tous ces personnages sont humains. Ou alors atteignent les failles de l'humanité. Par exemple, dans Generation Kill, il y a un personnage qui se retrouve à tuer quelqu'un juste par excès de zèle, on va dire, et qui du coup se retrouve particulièrement mal pendant tous les autres épisodes qui vont suivre, parce qu'il a tué un civil. Ou alors on a un personnage qui lui, au contraire, commence à totalement péter les plombs, à filmer toutes les horreurs abjectes de la guerre, etc. Et dans le dernier épisode où il décide de montrer le petit film qu'il a fait à tous ses camarades commencent en riant et finissent petit à petit à se dire « mon Dieu, c'est horrible » et partent gênés. Ce qui montre donc qu'il y a toujours une part d'humanité maintenue dans tous ces personnages qu'on va voir. Et l'accent est vraiment mis là-dessus. Si je parle autant de ce côté humain, c'est pas pour rien du tout. On va en plus découvrir les caractères de chacun. On va traverser les épreuves avec eux tout au long des 10 épisodes, de la dizaine d'épisodes de chaque saison. C'est difficile de suivre bien sûr tous les personnages secondaires, mais ils vont créer un paysage humain très fort autour de ces personnages. Ils vont créer de nouvelles relations, ils vont créer de nouvelles manières de voir les choses. Encore une fois, dans Generation Kill par exemple, il y a une rivalité entre les différentes sections. Il y a une section qui va aller jusqu'à tabasser des prisonniers de guerre, alors que la section qu'on suit est plus justement pour un traitement humain, etc. Bien sûr, on se place du côté des gentils dans les gentils, mais ça apporte quand même une opposition qui est très intéressante. Et on peut retrouver la même chose dans Band of Brothers, par exemple, dans les épisodes finaux, où ils se retrouvent juste comme force d'occupation en Allemagne, et il y a justement ce problème d'être confronté à l'absence de combat, qu'on retrouve dans The Pacific. Donc, ces séries ne sont pas forcément des critiques de la guerre, elles ne donnent pas un véritable commentaire sur la guerre, mais plutôt des témoignages. Elles donnent la parole aux acteurs, qui aiment ou non combattre. Mais elles cherchent toutes à montrer les raisons qu'il y a pour ces acteurs à combattre ou pas. Et puis après, bien sûr, il faut le dire, Band of Brothers est juste magnifique. Par exemple, dans le dernier épisode qui se passe en Allemagne, le major, maintenant il me semble Winters, se baigne au petit matin dans un lac alpin. C'est juste un plan absolument sublime. Il y a beaucoup d'images fortes aussi qui servent comme témoignages. Par exemple, il y a la libération des camps qui est montrée dans les épisodes finaux de Band of Brothers, ou alors l'horreur de la guerre du Pacifique présentée dans The Pacific, bien sûr. Et si je vous parle de toutes ces séries, c'est pas juste parce que j'ai un intérêt belliqueux derrière, c'est que je vous pousse vraiment à aller découvrir ce que peut proposer l'univers des séries comme témoignage, comme véritable représentation, le plus proche possible de la réalité, bien sûr avec tous ses biais, mais en évitant le côté documentaire. Et aussi, c'est parce que j'ai un petit truc derrière la tête, une suite est en préparation, et oui, Band of Brothers 3, en somme, on va dire, cette fois-ci concernant les pilotes de Bombardier. Encore une fois, c'est un témoignage qui nous manque, dont on ne connaît que peu de choses, sauf à travers quelques grands films de cinéma américain qui, bien sûr, d'un niveau historicité, sont à revoir. Donc je vous invite, comme moi, à attendre des nouvelles de Masters of the Air, qui est à nouveau une adaptation d'un bouquin. Et sur ce, je vous dis, allez découvrir les séries qui servent de témoignage.
Et nous terminons donc avec quelques petites suggestions de sorties pour cette semaine. Et je commence tout de suite avec l'une des grosses sorties de la semaine, les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin, que nous chroniquerons d'ici quelques émissions. On suit un réalisateur, Ismaël Vuillard, qui réalise le portrait d'un diplomate atypique inspiré de son frère. Ce personnage de réalisateur étant évidemment lui-même inspiré de celui de Desplechin lui-même. Réalisateur qui vit donc avec une femme avec laquelle il est heureux quand, soudain, son ancienne compagne censée être morte il y a 20 ans réapparaît dans sa vie. Et c'est cet homme torturé, confronté à la fois à sa création et à tous ces fantômes qui font irruption dans sa vie, que nous donne à voir Arnaud Desplechin dans ce film que tout le monde attend beaucoup et que vous pourrez voir chez nos amis des Cinémas Lumière. Cinémas Lumière qui présente également L'Illusionniste de Sylvain Chomet, adapté d'un scénario de Jacques Tati, ce magnifique dessin animé du réalisateur des Triplettes de Belleville que vous pourrez donc retrouver à la Fourmi cette semaine. Il sera projeté 3 fois. Côté vieux films, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, je commence avec La Maison des Étrangers de Joseph Mankiewicz, film de 1949 avec Edward G. Robinson et Susan Hayward, qui suit un avocat qui vient de purger 7 années de prison, qui revient avec la ferme idée de se venger, mais retrouve aussi son ancienne maîtresse. Un scénario assez classique, certes, mais porté par des acteurs brillants et puis toujours le génie de Mankiewicz. Pour ce genre d'histoire, ce sera projeté quelques fois cette semaine au cinéma Opéra dans le 1er arrondissement. À l'Institut Lumière maintenant, 2 films à ne pas rater ce week-end. D'abord Panique à Needle Park de Jerry Schatzberg. Sommes à New York dans les années 60 et Helen, seule et désemparée, erre dans les quartiers pauvres de la ville lorsqu'elle rencontre Bobby. Et le jeune homme est héroïnomane et à ses côtés, elle découvre l'univers sombre de Needle Park, plaque tournante du trafic de drogue. Pour le jeune couple, c'est La Descente aux Enfers, un film majeur dans le traitement de toutes ces questions de la drogue aux États-Unis, qui est donc projeté par l'Institut Lumière jeudi donc et vendredi soir. Et puis également Siberia d'Andrei Konchalovsky, puisque comme vous le savez, à l'occasion du centenaire de la Révolution russe, l'Institut Lumière organise une grande rétrospective cinéma russe moment d'histoire. Donc ce film de Konchalovsky, qui nous montre 2 familles au fin fond de la Sibérie, 2 familles qui se détestent, les fortunés Solomine et les misérables Oustiugine. En 1917, la révolution éclate, un événement qui bouleverse de fond en comble la réalité sociale dans toute la Russie, et précisément dans ce petit village perdu, une immense fresque de 3h20 avec entr'acte qui couvre 70 ans de soviétisme, génération après génération. Une œuvre majeure du cinéma soviétique à découvrir, il est projeté qu'une seule fois, ce samedi à 18h30, à l'Institut Lumière. Également au Ciné-Café Aquarium, je mentionne la projection de Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, film inratable également à voir ou à revoir, et ce sera projeté ce jeudi à 20h45. Et puis, pour ceux qui passeraient par la capitale, par Paris, la Cinémathèque française organise, en plus de toutes ces rétrospectives du moment, une grande rétrospective qui s'appelle « Révisons nos classiques », qui dure pendant tous les mois de juin et de juillet, où l'on vous propose tous les jours, 14h30, dans la salle Henri Langlois de la Cinémathèque, des films majeurs, révisant nos classiques, hein, ça porte bien son nom. Alors je cite pêle-mêle L'Ange Bleu de Sternberg, L'Aurore de Murnau, Le Cuirassé Potemkin d'Eisenstein, 8,5 de Fellini dont nous parlions l'autre jour, Manhattan de Woody Allen, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, Théorème de Pasolini ou Le Voleur de Bicyclette de Vittorio De Sica. Si vous avez l'occasion, c'est toujours un bon moment à passer, même s'il fait très très beau dehors. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour le cinéma, c'était Alice Bocara, Sarah Cusset et Marie Lécuyer. Puis pour les séries, Pierre Lemoël. Montage et réalisation, Rémi Serda. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, et puis toutes celles que nous avons enregistrées précédemment sur notre site transistor.fr, où vous pouvez commenter ces émissions. Vous pouvez également nous retrouver sur notre toute nouvelle page Facebook d'Étoiles plein les yeux sur Transistor. Nous vous retrouvons la semaine prochaine comme d'habitude et d'ici là, passez une excellente semaine dans les salles obscures.